Bonjour, donc très bon après-midi, bienvenue à la Boulac pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc nous reprenons cette journée d'études démarrée donc ce matin. Nous avons pu vous présenter le musée virtuel du Goulag et procéder à différentes interventions. Cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir et de recevoir Sylva Linhart. Merci d'être là, Sylva, qui est une donc des témoins, une des voix de ces archives sonores du Goulag. Mais tout d'abord, c'est Martha Craveri, donc historienne, spécialiste des déplacements forcés et coordinatrice de ce projet Archives sonores du Goulag, également responsable éditorial de ce musée virtuel que nous avons donc créé en partenariat avec RFI et le CERSEC. Et les 13 chercheurs qui ont participé à cette enquête, certains sont ici. Martha Craveri donc va nous présenter ce livre des porteurs en URSS, publié aux éditions Autrement, en coédition avec RFI.
Je vais vous dire quelques mots sur ce livre que j'espère vous lirez, donc je n'ose pas vous en parler trop quand même. Donc ce livre qui est un livre collectif, je le rappelle, je l'ai rappelé ce matin, et elle est résultat d'une longue enquête dont ce matin nous avons dessiné les principales idées, résultats et pistes de recherche engagées. Donc ce livre raconte l'histoire de vie de certains parmi les 160 témoignages de déportés en URSS recueillis par l'équipe dans tous les pays d'Europe centrale et orientale et aussi au Kazakhstan et en Sibérie où une partie de nos témoins sont restés vivre après leur libération. Alors si l'histoire des déportations des soviétiques dans les camps du Goulag a été l'objet de nombreuses publications et est connue par un large public, l'histoire d'environ 1 million d'Européens arrêtés, condamnés et déportés dans les camps de travail et dans les villages de déplacement dans le Grand Nord, en Sibérie et en Asie centrale, a un caractère beaucoup plus inédit. Il n'avait jamais fait l'objet d'une étude transnationale, c'est-à-dire sur l'ensemble de la population centre et est européenne. L'originalité de sa démarche est, à mon avis, double. Alors, tout d'abord, c'est d'avoir choisi, dès le début du projet, et donc cela se reflète dans le livre, de restituer des histoires de vie et non seulement des histoires de déportation. Cette approche permet d'offrir au lecteur toute la richesse et toutes les facettes de cette expérience et en quelque sorte de sortir d'un cadre strictement national. Nous en avons déjà parlé ce matin. Et je pense qu'il est important d'insister sur ce point car justement la richesse de ce livre se trouve dans la diversité des parcours et des expériences de déportation des témoins, mais aussi dans la diversité des parcours des membres de l'équipe et des auteurs du livre. Si pour les témoins, cette diversité se trouve dans l'âge à laquelle a été vécue la déportation, le milieu social, culturel, religieux, dans lequel ils ont grandi, la langue, la nationalité, qui en Europe centrale et orientale ne sont pas du tout la même chose, le destin des familles, ceux qui sont déportés en famille, ceux qui sont déportés seuls, ceux qui ont grandi sans père, car le père avait été au camp, comme c'est le cas de notre témoin Sylva Linharté, la diversité dans l'héritage de la déportation sur la vie de chacun de ces témoins, et la diversité dans les modalités de retour et de réinsertion une fois que les personnes rentraient dans leur territoire d'origine, voire dans d'autres pays d'Europe, aussi dans des pays d'Europe occidentale. Par contre, pour ce qui est des membres de l'équipe, ces différences apparaissent dans les nationalités des membres de l'équipe. Comme on a vu ce matin, on est de toutes les de nombreux pays européens, d'Europe occidentale et d'Europe centrale et orientale et de Russie. Les langues, les disciplines, anthropologie, ethnologie, l'histoire, la démographie, la géographie, la sociologie, et aussi la diversité des parcours personnels de chacun. Certains d'entre nous ont vécu, ont grandi en Europe centrale et orientale et ont vécu la répression soviétique. D'autres, plus jeunes, ont participé au mouvement de libération nationale au début des années 90, par exemple aux pays baltes. D'autres encore ont étudié dans les grandes écoles françaises ou dans les établissements de l'Union européenne. Vous voyez donc, vous avez, et dans les témoignages et dans le corpus de témoignages et parmi les membres de l'équipe, tout un pan d'histoire européenne. D'où le caractère polyphonique de l'ouvrage qui restitue la diversité des trajectoires de chacun, leur personnalité et sensibilité, et aussi en quelque sorte la sensibilité de chaque auteur selon la qualité de leur écoute et des différents modes de restitution de celui de déporté. Alors dans les livres d'histoire, c'est rare qu'on trouve des sentiments et des émotions. Dans ce livre, vous en trouvez beaucoup. Cette qualité de l'écoute de la part de chacun de nous, l'intérêt porté sur l'ensemble de la vie des témoins, ainsi que cette perspective transnationale et européenne qu'on a toujours expliquée aux témoins, ont conduit à celle que l'on peut dire avoir été une des principales surprises de l'enquête, c'est-à-dire le constat que le langage officiel est très formaté, propre aux reconstructions collectives des mémoires nationales, est très peu présent. Et cela constitue aussi, je répète, toute la richesse de ce corpus qui nous a permis d'écrire cet ouvrage et d'autres encore, j'espère, vont suivre. L'autre élément d'originalité de cet ouvrage est lié à la liberté que chacun a eue de choisir et de restituer des trajectoires de vie autour d'une thématique particulière, propre à l'expérience de la déportation, autour justement de spécificités nationales de chaque témoin et de chaque déportation. Vous trouverez certes dans ce livre des Lettons, des Lituaniens, des Polonais, des Hongrois, mais leur récit s'articule autour de la faim, du travail, de l'amitié, de la nature sibérienne, la taïga, dont nous parlera sans doute Silva, de la survie, du silence. C'est ainsi, non pas une somme d'histoire nationale que nous essayons de restituer, mais une multitude de vies déplacées, déracinées, d'enfances volées et de retour à la vie, et où la déportation a une place certes très importante, mais aussi très différente sur le cours de la vie de chacun, ainsi que sur son héritage. Pour conclure, je voudrais dire que ce projet et ce livre sont le résultat de plusieurs rencontres. Tout d'abord, la rencontre avec RFI, entre chercheurs du CERSEC et autour du CERSEC, et RFI. RFI dans la personne de Valérie, journaliste, avec les techniciens de RFI, Marc est là, qui nous a suivis sur plusieurs terrains, a couru derrière notre chercheur polonaise dans toute la Pologne, je crois qu'il ne va jamais oublier, même l'Afrique a été plus simple pour lui. Tout le service de la com, toutes des personnes avec qui les chercheurs rarement ont affaire dans leur parcours de chercheur et qui, par contre, ont beaucoup de choses à nous apprendre, avec qui on a beaucoup échangé et dont le résultat, les deux résultats principaux sont le musée virtuel que vous avez vu présenter ce matin et le CD audio qui accompagne, et plus qui accompagne, qui est vraiment fait partie intégrante du livre et qui restitue des extraits choisis de témoignages, des extraits choisis par Valérie Nivelon et les chercheurs de l'équipe. Une autre rencontre a été celle entre les différents membres de l'équipe. Certains avaient déjà travaillé ensemble, pas tous, et des grandes amitiés sont nées. On a beaucoup travaillé, beaucoup échangé, et ça a été extrêmement enrichissant pour surtout les chercheurs du CERSEC, qui sont souvent en majorité des historiens, échanger avec des collègues de disciplines différentes. Et naturellement, la rencontre principale, c'est celle avec les témoins. Nous avons tous recueilli plusieurs témoignages. Ce livre raconte d'une ou deux de ces rencontres, celles qui nous ont le plus touchés, voire bouleversés. Et pour conclure, vraiment, je peux dire que si cette rencontre a permis à nos témoins de raconter, une bonne partie des témoins du livre, plus que la moitié, n'avaient jamais témoigné. Donc ça leur a permis de livrer enfin leur histoire de vie, mais elle a aussi permis à nombre d'entre nous d'évoluer en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, bonne lecture à tous, et je laisse la parole à Juliette Denis.
Merci Martha Craveri.